Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Do you feel good?
I feel good.
Do you feel good?
Bonjour, ceux qui peuvent partir en vacances doivent commencer à faire leurs réservations en France. C'est l'appel lancé par le secrétaire d'État aux affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne. L'Europe commence enfin à se projeter dans la saison estivale après des mois de crise sanitaire et de confinement. Mais les vacances vont sans doute prendre des couleurs un peu différentes cette année. Alors évidemment, les premiers touristes allemands qui ont débarqué lundi dernier à Majorque ont sans doute attrapé leur premier coup de soleil. Mais le tourisme en Espagne, ce n'est pas seulement la plage, c'est 12% du PIB. Pour beaucoup de professionnels du secteur, la saison est presque déjà perdue. Nous sommes en ligne avec Diane Cambon, notre correspondante à Madrid. Diane, certaines branches du tourisme sont quasiment condamnées.
Tous les tourismes ne se ressemblent pas. Il y a les amateurs de la plage et des formules club. Il y a ceux qui recherchent une expérience unique à la rencontre de l'art de vivre espagnol. C'est le cas de nombreux touristes américains ou asiatiques. Ce tourisme-là va avoir du mal à survivre. D'une part, car les vols entre l'Europe et le continent américain ou l'Asie ne vont pas reprendre tout de suite. Puis, il va falloir regagner la confiance de ces voyageurs. Parmi les activités en berne, il y a le tourisme du vin, le no-tourisme. Nous avons rencontré un guide touristique, œnologue, Enrique Menas-Salvas, qui avant l'épidémie, chaque semaine faisait découvrir les vignobles et les caves de la région de Rioja à une dizaine de groupes de touristes, majoritairement américains. Aujourd'hui, avec les mesures sanitaires exigées et les gestes barrières, cette activité est difficilement envisageable.
Le tourisme que l'on propose est celui d'un tourisme de groupe, de voyages partagés avec des inconnus, des expériences personnelles proches où l'on partage des verres et où l'on visite des endroits clos. Le no-tourisme va devoir se rénover pour aborder cette nouvelle période, pour s'adapter au monde post-pandémie.
Diane, quelles sont les perspectives pour ce secteur qui va subir de plein fouet les conséquences de la crise du Covid ?
Elles sont assez sombres. Certaines régions vigneronnes, comme la Rioja, dépendent économiquement à 70% de l'activité autour du vin. Pour l'œnologue Enrique, il va falloir beaucoup de patience.
On pense que le tourisme hors européen va commencer à revenir à partir de septembre-octobre, mais on ne va pas revenir au top avant le mois d'avril ou mai 2021. Et puis, il faudra voir si cela est rentable, si les mesures sanitaires et la réduction des groupes ne vont pas faire augmenter les prix des produits touristiques que nous offrons.
D'ici là, le tourisme espagnol va se concentrer sur les plages, même si là aussi, l'occupation va être contrôlée. Et on attend également moins de touristes.
Merci Diane Cambon à Madrid. Une grande partie des Néerlandais a l'habitude de partir l'été au soleil, à l'étranger, souvent dans le sud de l'Europe. Mais avec la crise sanitaire, une partie d'entre eux envisage désormais les vacances aux Pays-Bas. C'est un reportage d'Antoine Moutot.
Le moteur à plein régime, des dizaines de passagers. Sur le quai du petit port de Harlingen, on se croirait presque en temps normal. Le sourire aux lèvres, le visage lumineux, Birgit Janssen semble heureuse. Elle est la gérante du MS Holland, un vieux remorqueur qui sert d'habitude à des excursions touristiques en mer des Vaden et en mer du Nord.
Depuis fin mai, nous naviguons pour les ferries d'Uxen. La compagnie n'avait pas suffisamment de capacité pour pouvoir laisser monter à bord assez de touristes et de visiteurs en direction des îles de la Frise. Elle a alors décidé de remettre en service et de louer d'anciens navires, comme le MS Friesland et le MS Holland, pour transporter davantage de personnes vers les îles.
Son bateau s'apprête à faire la traversée vers Terschelling, une charmante petite île parsemée de dunes, de pins et de pistes cyclables, et où vivent un peu moins de 5000 personnes seulement. Sans ses voyages pour le compte de la compagnie locale de ferry, Birgit Janssen aurait de quoi déprimer, car toutes les excursions touristiques qu'elle organise d'habitude ont été annulées.
À notre propre compte, notre remorqueur n'a pratiquement plus le droit de naviguer, et ça en raison des mesures contre le Covid-19. D'habitude, pendant nos excursions, on emmène nos passagers vers les îles de Vlieland ou de Terschelling, mais aussi à de grands événements et des festivals comme dans le port de Rotterdam ou à Amsterdam, et même à Hambourg, Rostock et Emden en Allemagne. Mais à cause du coronavirus, ils ont tous été annulés.
ze zijn die allemaal afgezegd.
L'appel en renfort de la compagnie Doekson est donc un soulagement pour elle. Concrètement, les autorités néerlandaises contraignent les ferries à ne remplir leur capacité totale qu'à 40% pour respecter la distance de sécurité d'un mètre et demi entre chaque personne. Et ça alors que depuis plusieurs semaines, les touristes sont de plus en plus nombreux à débarquer sur ces îles du Nord. Et avec l'incertitude qui entoure la réouverture des frontières et l'évolution de la pandémie dans des destinations plus ensoleillées, de plus en plus de Néerlandais songent à passer leurs vacances ici. Sur l'île, à l'entrée du port, devant de magnifiques maisons en briques, Michel Aldering sort de sa Jeep. Il dirige l'office de tourisme de Terschelling. Pour lui, l'arrivée de nouveaux touristes est l'un des seuls côtés positifs de la pandémie.
C'est une chance, c'est sûr. D'abord parce que cela incite les gens à aller voir d'autres choses. Vous, par exemple, vous êtes arrivé à bord d'un vieux bateau. Du moment où de vieux bateaux ont été remis en service, tout le monde était très content. Cela a même incité certains à réserver une place et à envisager de remonter à bord l'année prochaine. Puis, les îles de la Frise sont une région très spéciale des Pays-Bas. Nous avions déjà beaucoup de touristes, mais maintenant, nous nous attendons à accueillir de plus en plus de Néerlandais.
Pourtant, selon Michel Aldering, il n'y aurait vraiment pas de quoi s'inquiéter. D'après lui, l'île garde une grande capacité d'accueil.
Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que l'on est sur une île. Nous avons ici 5000 habitants, mais en tout, nous avons de la place pour accueillir 20 000 personnes. Donc, nous avons beaucoup d'espace et nous pouvons absorber beaucoup de monde.
C'est que la plupart des Néerlandais ont vu leur projet pour cet été tomber à l'eau. À environ 4 heures de route de là, près de Schiphol, l'aéroport international d'Amsterdam, un village de vacances un peu particulier espère récupérer une grande partie des vacanciers néerlandais de cet été. Ici, le voyagiste Coren Doon vante désormais les mérites des séjours tout compris sur la Costa Hollanda.
Nous avons remarqué que de très nombreuses personnes en avaient assez de rester à la maison. Elles aimeraient beaucoup partir en vacances cet été. Nous avons donc cherché des alternatives, car avec le coronavirus, il est presque impossible de s'envoler vers les destinations ensoleillées. Nous avons donc trouvé des solutions dans notre propre pays. C'est le cas par exemple de Costa Hollanda. Des vacances tout compris à la côte néerlandaise. Vous dormez ici dans ce très bel hôtel et vous pouvez combiner votre séjour avec une journée à la plage dans notre beach resort de Zandvoort ou aller visiter Amsterdam.
Chaque heure, une navette remplie pour l'instant de retraités s'en va vers la station balnéaire de Zandvoort près d'Amsterdam. Une autre vers la vieille ville d'Amsterdam.
En plus de Costa Hollanda, nous avons d'autres parcs de vacances dans 14 endroits différents des Pays-Bas. Nous avons déjà reçu 5000 réservations et ici, on a à peine ouvert le 1er juin et on se rend compte que la demande est également très forte.
La majorité des réservations faites ici sont en réalité des échanges d'avoirs suite à l'annulation par le voyagiste Coren Doon de séjours, notamment dans la péninsule ibérique, en Grèce et en Turquie. Mais malgré un intérêt croissant pour des vacances aux Pays-Bas, de nombreux Néerlandais rêvent toujours de partir à l'étranger cet été.
Un Français sur trois part en vacances et, traditionnellement, c'est l'Hexagone, la destination qu'il préfère. Les deux tiers de ceux qui partent choisissent la France, en effet. Un phénomène qui pourrait s'accentuer avec la crise sanitaire. Reportage dans la petite commune de Chichiliane. Elle est située dans le parc naturel régional du Vercors, dans le sud-est de la France, à 1000 mètres d'altitude. On y pratique l'agriculture, les sports de montagne, l'équitation. Il y a beaucoup d'élevage de chevaux dans la région. David Bachet s'est rendu à la ferme des Quatre Chemins. Après 3 mois difficiles à cause du coronavirus, la ferme et son centre équestre recommencent à accueillir les touristes.
Plus de 110 chevaux et poneys, des cultures céréalières et un gîte niché au cœur des montagnes du Vercors. La ferme des Quatre Chemins est un petit paradis verdoyant qui se remet tout juste de 3 mois de purgatoire.
Bah, ça nous a un peu surpris, comme ça a surpris tout le monde, quoi.
Michel Jay a créé le site il y a 35 ans. À cause du coronavirus, cette année est l'une des plus difficiles.
L'activité équestre, en fait, n'a jamais débuté, puisque Pâques s'est pas fait. Ça, déjà, ça a été le début de la répercussion financière du confinement. Et puis après, bon, bah, c'est vrai que même localement, même les petites bricoles de promenade à poney d'une famille ou d'une autre, il n'y avait plus rien du tout.
Vous avez fait 3 mois
sans rien du tout.
Et puis, progressivement, les 4 salariés qui avaient été mis au chômage partiel ont fini par retrouver leur travail, leurs chevaux et leurs apprentis cavaliers.
Et on va partir au pas, tranquillement.
Au milieu du manège, Eva Stakoviak dirige un cours d'équitation.
On a eu pas mal de consignes de la part de la FFE.
Fédération française d'équitation.
Les distanciations, nous on a porté des masques au début à l'accueil des enfants.
Aujourd'hui c'est plus obligatoire.
Puis c'est compliqué avec les petits. Dans l'écurie, il y a quand même le sens qui s'est gardé.
Le sens de circulation.
Voilà, de circulation. Les plus petits, c'est un peu plus compliqué, mais les plus grands, ils ont l'habitude au collège d'avoir leur masque.
Et les chevaux?
Les chevaux, pas de masque.
On va pas y arriver. Aussi, hein. Il est un peu grand.
Tu vas faire quoi?
Du poney.
C'est chouette le poney?
Ouais, très bien. Faire du trot, apprendre, plein de choses.
Amuse-toi bien.
Merci.
Outre les cours d'équitation, la ferme des 4 chemins propose, pendant l'été, des séjours en famille. Elle accueille aussi des randonneurs de passage et surtout des colonies de vacances. Mais avec le coronavirus, certains organismes ont annulé leurs réservations. D'autres tardent à confirmer. Michel Jay.
Pour l'instant, en réservation, on est en retard. On croise les doigts que les taux se desserrent un peu au niveau réglementation, que ça puisse être gérable, parce que pour l'instant, ça l'est pas du tout, quoi. C'est demi-effectif. Et puis, les lits superposés, c'était interdit. Maintenant, ça est autorisé tête bêche, donc c'est assez étonnant. Hébergement, nourriture, où il y a une distance à respecter.
Ça veut dire que vous allez pouvoir accueillir moins de personnes que d'habitude?
Eh ben, ça risque d'être ça, ouais. Et donc, un chiffre d'affaires en haute saison qui risque d'être bien moindre. Si on fait l'année zéro, on sera pas mécontent.
Année zéro, ça veut dire pas de perte seulement.
Et ben, voilà, c'est ça.
La partie agricole de l'activité ayant continué de fonctionner, avec même de bonnes récoltes, la ferme des 4 chemins tient encore le coup. Mais les investissements prévus cette année ont été suspendus et le succès de la période estivale est devenu vital. Pourtant, Michel Jay a des raisons d'être optimiste.
Depuis le déclenchement du déconfinement, ça se réveille pas mal. Les gens appellent, demandent des renseignements, vont sur le site.
Est-ce qu'ils vous interrogent aussi sur les conditions de protection qui sont mises en place?
On n'a pas beaucoup de questions comme ça, parce que vraiment, je pense que les gens déconfinent de façon radicale, quoi. C'est-à-dire, on l'a vu dès les premiers week-ends du déconfinement, là, où là, on a vu arriver mais des masses de gens. Bon, ça s'est fait de façon très sympathique, quoi. Je veux dire, on était aussi contents de les voir, tous ces gens. Après, c'est l'inconnu quand même, hein. Je sais pas trop comment les gens vont... Est-ce qu'il y a une nouvelle clientèle qui va arriver?
Ça sera la surprise.
Ça sera la surprise, un peu, ouais. On espère.
Et il y a de quoi. Comme les hirondelles annoncent le printemps, les premiers touristes ouvrent la saison d'été.
Hop, vous venez vers le poney, vous lui passez la première longe.
Distance de sécurité, s'il te plaît.
Vous lui passez le museau et après vous l'attachez avec la boucle à gauche.
Eh ben allez.
À peine réveillé, Samuel Thiron est mis à l'épreuve.
Il faut que j'attrape le cheval. Oui, il a l'air d'être gentil, heureusement. Hop. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie presque.
Alors qu'en fait, vous êtes arrivé hier.
Alors que je suis arrivé hier et que les chevaux, j'ai jamais mis un pied dessus. On est venu en famille avec mes enfants. Ça faisait très longtemps que ma femme devait faire une balade à cheval, donc on en a profité. On a dormi sur place, dans le gîte.
Et l'endroit?
C'est magique. Il n'y a rien, on est au milieu de nulle part, il n'y a que des chevaux. C'est génial, la montagne.
Cette fois, vous êtes venu pour un week-end. Ça pourrait ressembler à ça aussi, les vacances de l'été?
Oh bah bien sûr, oui. Après, là, nous, on fait du cheval, mais c'est vrai qu'il y a d'autres activités pas loin qui pourraient être sympas, même les randonnées.
Vous projetez pas de partir loin?
Non. Cet été, je pense qu'on a assez à faire près de chez nous, sans aller trop loin.
Un raisonnement que beaucoup partagent, et c'est bien ce qui pourrait sauver l'année de la ferme des 4 chemins.
Notre chronique en un mot est de retour tous les mercredis. Le mot de la semaine nous vient d'Autriche, mais c'est un mot anglais. Message contrôle, un terme technique qui s'est imposé dans le débat public et qui décrit la manière nouvelle dont le jeune chancelier Sebastian Kurz communique avec les citoyens. Ici en France, on pourrait parler d'éléments de langage. On voit ça avec notre correspondante à Vienne, Céline Béal. Céline, c'est quoi exactement ce message contrôle?
C'est un mot qui a commencé à être très utilisé en 2017 lorsque le jeune Sebastian Kurz a pris la tête du Parti conservateur autrichien. Il a décidé de rénover cette formation, il lui a imposé une nouvelle communication très professionnelle, très présente sur les réseaux sociaux et avec une image de lui très maîtrisée. Écoutez l'explication de Karin Liebhardt, qui est une chercheuse spécialiste de la communication politique à l'Université de Vienne.
Le message contrôle, c'est en fait un terme qui vient du marketing, de la publicité. Il s'agit de communiquer publiquement une marque unifiée pour un produit. produit, d'en livrer une image homogène. C'est un terme qui est aussi utilisé en politique.
Concrètement, les membres du Parti conservateur ont commencé à faire tous passer le même message dans les médias et sur les réseaux sociaux, à donner tous les mêmes réponses sur tel ou tel sujet, à utiliser les mêmes éléments de langage, comme on les appelle en France. Et ils ont connu un grand succès. Fin 2017, Kurz est devenu chancelier. Il a alors conclu une coalition avec l'extrême droite et ce gouvernement a duré jusqu'à mai de l'année dernière. Là encore, cette fois au sein du gouvernement, l'équipe Kurz a pratiqué en grande partie ce fameux « message control ». Et beaucoup de citoyens ont aimé ce nouveau style après des années de coalition entre des partis qui semblaient incapables de ne s'accorder sur rien.
Le mot est donc connoté positivement.
En fait, pas vraiment, car au départ, le mot a été popularisé par ceux qui, justement, mettaient en question le message control. Maintenant, on peut dire qu'il est vraiment entré dans le vocabulaire de la plupart des citoyens, nous dit Karin Liebhardt.
On l'utilise vraiment tout le temps, et à tort et à travers. Mais je dirais que ce que l'on retient surtout, c'est davantage la partie contrôle que la partie message. On a un peu l'impression qu'ils veulent contrôler très strictement les informations qui sont publiées. Et c'est peut-être vraiment ce que voulait le dernier gouvernement, dans une certaine mesure.
De mois en mois, on a en effet commencé à entendre que tel ministre filtrait les journalistes autorisés à obtenir telle ou telle information, ou que les attachés de presse du chancelier pouvaient même appeler les rédactions pour essayer de les influencer.
On imagine que ça n'a pas plu aux journalistes critiques qui mettent toujours en avant leur rôle de contre-pouvoir dans les démocraties.
Exact. Donc, je me suis rendue à un endroit où on en trouve beaucoup, à la conférence de presse qui suit le Conseil des ministres tous les mercredis à Vienne. C'était fin avril, avant le confinement. Je me suis dit que ces journalistes pourraient me parler de leurs expériences, mais j'ai été en partie déçue. Plus de la moitié des collègues à qui j'ai tendu mon micro ont refusé de me répondre. Je crois qu'ils étaient gênés de prendre position alors que nous nous trouvions dans la chancellerie et qu'il y avait des fonctionnaires du service de presse fédéral un peu partout autour de nous qui pouvaient peut-être tendre l'oreille. Quelques avis intéressants quand même.
Je crois qu'il y a effectivement une tendance à contrôler en partie les opinions qui sont publiées, dans la mesure du possible. Les méthodes utilisées ne sont pas inhumaines, mais on essaye de garder le contrôle sur ce que rapportent les médias.
Mais elles souffrent plus qu'avant ?
Oui, quand même, je trouve.
C'est vrai que la communication doit être professionnalisée d'une manière ou d'une autre, surtout quand on ne communique pas seulement via les médias classiques, mais aussi sur les réseaux sociaux. Mais cela devient un problème, pour moi en tant que journaliste, quand des sources sont obstruées, l'accès aux informations barré, quand les services de presse des ministères essayent de dicter le moment où les articles doivent être publiés. Il y a bien ce genre de tentative. La question, c'est de savoir à quel point les médias se laissent faire.
Je trouve que c'est ça qui est passionnant dans ce débat assez large autour du message control. Autant des réseaux sociaux, quelle communication et quel contrôle démocratique attendons-nous ?
Mais Céline, le gouvernement a changé cette année en Autriche. Est-ce que la nouvelle équipe dirigeante a repris les mêmes pratiques que ses prédécesseurs ?
C'est la question que tous les observateurs se posent. Depuis janvier, le conservateur Sébastien Kurz est à nouveau chancelier, mais cette fois en coalition avec un autre parti, les Verts. Changement radical. Et comme les Verts accordent habituellement une grande place au débat interne et à la transparence, on se demande bien s'ils vont jouer le jeu de cette communication très orchestrée, voire verrouillée. Eh bien, résultat de ma petite enquête dans la salle de presse, ce n'est pas encore très évident, il y a sans doute des tendances dans les deux sens. On y verra probablement plus clair quand la crise liée au coronavirus sera totalement passée.
Merci Céline Béal.
Merci Juliette.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur le site de RFI.fr. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de l'émission sur votre plateforme de diffusion préférée. Demain, Léa-Lisa Westerhoff se penche sur les systèmes de santé européens ébranlés par la crise. À bientôt.